Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
On parle cette semaine de franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie chrétienne plus particulièrement, nommée comme une imposture, et puis c'est le titre d'un ouvrage, et je reçois son auteur que vous entendez depuis le début de la semaine. Bonjour Serge Abad Gaillardeau.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Alors oui, dans ce quatrième entretien en quelques minutes, dans votre livre, vous distinguez des obédiences déistes et laïques, pourtant vous affirmez qu'elles reposent toutes sur la même logique spirituelle, et vous allez un peu nous expliquer tout ça, mais vous allez peut-être introduire différemment et nous dire un peu plus peut-être sur ce livre tout particulièrement.
Oui, alors je dis souvent dans mes conférences que la franc-maçonnerie est une sorte de pelote de laine avec d'innombrables fils et que si on se trompe de fil, on ne sait pas bien dérouler la pelote. En fait, il faut pouvoir faire des sectorisations en quelque sorte, il faut disséquer un petit peu le mouvement maçonnique pour en faire des catégories. Et pour faire le plus simple, il y a donc effectivement des obédiences laïques. Je pense par exemple au Grand Orient de France, qui est le plus laïque. Et à côté, vous avez, ou en face plutôt, vous avez des obédiences qui se disent déistes, comme la Grande Loge Nationale Française. Et parmi les déistes, vous avez plus spécifiquement des obédiences qui se disent chrétiennes, comme par exemple le Grand Prieuré des Gaules, la Grande Loge Traditionnelle Symbolique Opéra. Mais tout ça, ce sont des variantes formelles, parce que sur le site de la Grande Loge Nationale Française, qui est l'obédience la plus représentative, la plus reconnue par la franc-maçonnerie en général, et il y a également Giuseppe Mazzini, qui est un dignitaire du 19e siècle en Italie et qui est également sataniste, puisqu'il a écrit une ode à la gloire de Satan. Ces deux références nous expliquent et nous démontrent que finalement, toutes ces divergences, ou plutôt ces différences de rituels et d'obédience ne sont que des variantes formelles d'un même fond. En fait, il faut bien comprendre que la franc-maçonnerie, à l'origine, se dit déiste. En 1717, elle fait référence à Dieu, mais en fait, c'est le grand architecte de l'univers, ça n'est pas le Dieu trine des chrétiens. Et elle va, à partir de 1877, notamment en France et puis après dans d'autres pays, abandonner la référence obligatoire au grand architecte de l'univers, et donc vont naître des obédiences qui se disent laïques et qui parlent d'une spiritualité purement humaine. Alors, pour faire mieux comprendre à vos auditeurs de quoi il s'agit, quand ces obédiences-là parlent de spiritualité, on peut se référer à ce que peut donner par exemple le bouddhisme ou des pratiques plus ou moins de méditation qui n'ont rien à voir avec l'esprit saint.
Donc méditation énergétique.
Absolument, voilà. Le reiki, d'autres délires occultistes.
Donc qui font appel aussi à de la magie, à de la voyance, à de la sorcellerie.
Alors voilà, il y a d'ailleurs une donnée magique dans les rituels maçonniques, je m'en explique parfois dans mes conférences. Je reviendrai sur le thème du gnosticisme, parce que dans le gnosticisme, il y a une donnée magique, puisqu'on parle d'un ésotérisme chrétien qui n'existe absolument pas, mais qui est une invention purement maçonnique pour mieux attirer, en quelque sorte, parce que c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Et puis finalement, c'est, comme vous le disiez l'autre fois, c'est séducteur. C'est-à-dire qu'on a envie de connaître des secrets de la magie. En fait, le gnosticisme naît avec Simon le magicien. C'est le premier aperçu gnostique dans la Bible. Simon le magicien voit l'apôtre Pierre imposer les mains, et grâce à l'action de l'Esprit-Saint, procéder à ce que lui appelle des prodiges. Et il dit à Pierre, « Donnez-moi ce pouvoir et je vous donnerai de l'argent. » Pierre lui répond, « Périsse, toi et tes demandes, puisque tu crois acheter la puissance de Dieu par le pouvoir de l'argent. » Donc on voit bien là déjà les deux branches, d'un côté de la foi chrétienne authentique et de l'autre côté du gnosticisme, se séparer complètement, parce qu'en fait il y a une sorte de hiatus congénital. Alors, j'ai écrit ce livre également parce que toutes ces variantes formelles qui irriguent la franc-maçonnerie, qui est, elle, une, et elle est unifiée, eh bien, permettent, vous savez, ça me fait penser à certains mouvements politiques que nous connaissons actuellement en France et qui permettent de ratisser large. C'est-à-dire qu'on n'est ni de droite ni de gauche, mais on est en même temps de droite et de gauche. Voilà. Et donc, avec ça, on arrive à tromper les gens et la franc-maçonnerie agit de la même manière. Et c'est un prêtre, un jour, qui, il y a quelques années, lisant mon premier ou mon deuxième ouvrage, m'a avoué qu'il était bien entendu convaincu par les écrits du Vatican. Il y a par exemple le décret du 26 novembre 1983 qui a été suivi par une déclaration publiée dans l'Osservatore Romano en 1984 qui explique bien en quoi il y a ce hiatus entre la doctrine maçonnique et la foi catholique. Mais, bien entendu, les prêtres ne sont pas au fait de ce qui se passe dans les loges, et c'est pourquoi j'ai écrit tous ces livres. Et ce prêtre me dit, je vais prendre vos livres parce que je suis très embêté. Lorsque je dis à un de mes paroissiens qui m'avoue être franc-maçon que ça n'est pas compatible avec la foi catholique, il me répond systématiquement, oui mais moi dans mon obédience, ou moi avec le rituel que nous utilisons, eh bien c'est pas pareil. En fait, tout ça résulte d'une tromperie. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Et les premières victimes de ces tromperies sont les francs-maçons eux-mêmes. Et les prêtres ont du mal à discerner. Je les encourage, non pas pour faire du chiffre, parce que ça n'est pas mon objectif, mais je les encourage à lire mon livre pour avoir des éléments de discernement.
Alors, quels sont, Serge, les vrais risques spirituels que comporte, si jamais certains auditeurs sont dans ce cas, cette double appartenance, c'est-à-dire à la fois j'appartiens à l'Église catholique, hein, je suis baptisé, je suis engagé, je vis des sacrements de l'Église catholique, mais j'ai aussi un autre engagement, donc je parle de double appartenance dans une loge maçonnique. Alors, quels sont les dangers, les risques ou les conséquences sur un plan purement spirituel?
Eh bien, le premier risque, c'est de faire comme Simon le magicien, c'est-à-dire de croire que les sacrements donnés par l'Église et qui sont l'émanation de l'Esprit-Saint, l'intervention de l'Esprit-Saint, l'infusion de l'Esprit-Saint, eh bien, ne sont que des actes magiques. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent dans l'Église et dans la franc-maçonnerie, c'est que dans l'Église, le prêtre, lui, représente le Christ, mais en tant que tel, il n'a pas de pouvoir. Ça n'est pas un magicien. Sans l'Esprit-Saint, sans l'intervention de Jésus, par exemple, je pense à l'Eucharistie, mais le prêtre n'est rien du tout. Bien sûr, il est consacré, ce qui veut dire qu'il a capacité à représenter le Christ, et comme les apôtres le faisaient à l'époque, eh bien, à transmettre en quelque sorte cette infusion de l'Esprit-Saint. En franc-maçonnerie, tout est magique. C'est-à-dire que, en franc-maçonnerie, la forme est déterminante. C'est-à-dire que c'est par la forme que se font les choses, comme dans la magie. Et ça, c'est le premier risque. C'est-à-dire qu'on va confondre l'action de l'esprit de Dieu avec l'esprit humain ou avec une sorte de naturalisme qui procède d'une magie. Le deuxième risque, c'est que... dans l'Église, on voit bien que le Christ est Dieu et Fils de Dieu, et en franc-maçonnerie, c'est un homme. C'est un homme qui s'est divinisé par l'initiation. Donc on voit bien que là aussi, c'est complètement différent. Et également, le troisième risque, c'est que on va perdre complètement ses références, puisque pour un chrétien, la seule référence, c'est la parole de Dieu qui est contenue dans les évangiles, et qui est donc, en quelque sorte, transmise et protégée par l'Église. Donc, quels sont les fondements de la foi chrétienne? Ce sont les dogmes portés par l'Église, qui sont un dogme, c'est un approfondissement d'une question de foi, qui sont des repères, en quelque sorte, pour nous permettre d'avancer vers la lumière de Dieu. En revanche, les fondements de la franc-maçonnerie sont tout à fait différents, y compris dans les obédiences qui se disent chrétiennes. Alors j'ai listé les fondements de tous les rituels maçonniques. Alors bien sûr, ces fondements interviennent à une plus ou moins grande importance. Vous avez parmi les fondements des rituels maçonniques, et y compris dans le rite écossais rectifié qui se dit chrétien, vous avez le pythagorisme grec, la kabbale hébraïque, le gnosticisme chrétien, la chevalerie templière, les emblèmes bibliques. Alors les emblèmes bibliques ne sont pas pris comme la parole du magistère, ça aurait été trop beau, mais comme finalement une simple allégorie ou une simple légende. Quand souvent dans des travaux maçonniques on parle de la Bible, on voit l'expression « selon la légende ». Ensuite, vous avez la tradition chrétienne initiale. Elle est détournée de son objectif, puisque la franc-maçonnerie considère qu'elle est d'une nature ésotérique, c'est-à-dire c'est un message secret, caché. Or, le Christ lui-même nous dit « il n'y a rien de caché qui ne doive être dévoilé ». Et il nous dit également « lorsqu'on prend une lampe, on ne la met pas sous le boisseau, on la donne à tout le monde pour que tout le monde puisse en profiter ». Vous avez également la tradition abrahamique, l'hermétisme de l'Égypte antique, et alors, en particulier pour le rite écossais rectifié, la doctrine de Cagliostro, qui est un magicien du XVIIIe siècle. Alors, c'est important parce que vous parliez des pièges tout à l'heure. Tout chrétien sait que Dieu est créateur, c'est-à-dire qu'il a créé la matière, il a créé l'homme, il a créé l'esprit, voilà. Et la franc-maçonnerie considère qu'en fait, il y a deux dieux, il y a un mauvais dieu, c'est Yahvé, c'est le dieu, le père, et un bon dieu qui est Lucifer. Et de ce dieu, les hommes ont été émanés et non pas créés.
Alors, si on veut aller un peu plus loin, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à lire ce livre, La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture, donc un livre-outil pour les prêtres qui accompagnent eux-mêmes. À demain, même lieu, même heure, et merci.